Ben-Hur, chapitre 16. Les bosquets de Daphné, les jeux d'Antioche. Ben-Hur avait quitté l'entrepôt avec l'amer sentiment de l'effondrement de sa dernière espérance. La pensée de son complet isolement s'emparait de lui d'une façon poignante. Il lui semblait qu'il ne valait plus la peine de vivre. Il s'arrêta au bord de la rivière. Elle coulait lentement, comme si elle s'arrêtait pour l'attendre, et ses profondeurs sombres l'attiraient presque invinciblement. Et tout à coup, comme pour l'arracher à cette attraction, les paroles de son compagnon de voyage lui revinrent à la mémoire. « Mieux vaudrait être un ver et se nourrir des mûriers de Daphné que de s'asseoir à la table d'un roi. » Il se détourna et reprit d'un pas rapide le chemin de son hôtellerie. « Tu demandes le chemin qui conduit à Daphné ?» s'écria l'intendant, étonné de la question que lui posait Ben-Hur. « Tu n'y as donc jamais été. Alors regarde ce jour comme le plus heureux de ta vie. Tu ne peux te tromper de chemin. Prends la première rue à ta gauche et suis-la jusqu'à l'avenue connue sous le nom de Colonnade d'Hérode. Là, tourne à gauche et va jusqu'au portique de bronze du temple d'Épiphane. C'est là que commence la route qui mène à Daphné. Que les dieux soient avec toi !» Après avoir donné à l'intendant quelques ordres au sujet de ses bagages, Ben-Hur s'éloigna. Il lui fut aisé de gagner la colonnade d'Hérode. C'était à peu près la quatrième heure du jour, et quand il eut passé sous les portes de bronze, il se trouva mêlé à ceux qui se rendaient au fameux bosquet. La route était divisée en trois parties, séparées par des balustrades ornées de statues. Des deux côtés, des groupes de chênes ou de sycomores et des pavillons de verdure invitaient les passants au repos. La partie de la route réservée aux piétons était pavée en pierre rouge. Un fin sable blanc soigneusement roulé recouvrait celle des chariots. Le nombre et la variété des fontaines placées sur le bord du chemin étaient incroyables. On les nommait du nom des rois qui les avaient fait élever en souvenir de leur visite à Daphné. Cette allée splendide s'étendait à partir de la ville sur une étendue de plusieurs kilomètres. Mais Ben-Hur avait à peine un regard pour sa royale magnificence et n'accordait pas beaucoup plus d'attention à ses compagnons de route. Les pensées qu'il absorbait n'étaient pas l'unique cause de son indifférence. Elles provenaient aussi de ce que, comme tous les Romains fraîchement débarqués en province, il croyait fermement que nulle part on ne pouvait voir des cérémonies supérieures à celles qui se célébraient journellement autour du poteau d'or élevé par l'empereur Auguste, lequel marquait le centre du monde. Pourtant, lorsqu'il atteignit Héraclia, village de banlieue situé à mi-chemin entre la ville et les bocages célèbres, l'exercice avait un peu dissipé son humeur sombre et il commençait à se sentir disposé à s'amuser. Une paire de béliers, conduits par une femme superbe et comme elle ornée de rubans et de fleurs, attira d'abord son attention. Puis il s'arrêta pour regarder un taureau blanc à la puissante encolure, couvert de sarments chargés de grappes. Il portait sur son dos un enfant nu, image du jeune Bacchus, qui pressait dans une coupe le fruit de la vigne et faisait des libations selon les formules consacrées. Lorsqu'il se remit en marche, il se demandait avec curiosité sur quels autels ces offrandes seraient déposées. Bientôt, il s'intéressa aux cavaliers et aux chariots qui le dépassaient. Puis il se mit à observer la foule de ses compagnons de route. Cette foule était composée de personnes de tout âge et de toutes conditions. Elles passaient presque toutes par groupes. Certains de ces groupes étaient vêtus de blanc, les autres de noir. Il y en avait qui cheminaient lentement en chantant des hymnes ou qui marchaient au contraire d'un pas léger au son d'une musique de fête. Si tel était tous les jours l'aspect de ceux qui se rendaient à Daphné, que serait donc celui des bosquets même ? Des cris de joie éclatèrent. Ben-Hur suivit des yeux la direction de beaucoup de mains tendues. Il vit au sommet d'une colline le portique d'un temple placé à l'entrée d'un bocage sacré. Les hymnes retentissaient plus ferventes. La musique accélérait sa mesure. L'enthousiasme général se communiquait à lui comme à son insu et lorsqu'après avoir passé sous le portique, il se trouva sur une large esplanade d'allées, il fut tenté, malgré le raffinement de ses goûts de Romain, de se joindre aux exclamations de la foule à la vue d'un jardin délicieux qui se perdait au loin dans une forêt à demi voilée par des vapeurs, d'un bleu pâle idéalement doux. Il traversa ce jardin plein de fleurs, de jets d'eau et de statues, autour desquels dansaient des hommes et des femmes se tenant enlacés. À la suite de la procession, il entra dans un des bosquets. Ils avançaient sans même demander où ils allaient, mais avec l'impression vague qu'ils finiraient par arriver au temple qui devait former, pensait-il, l'attraction suprême de Daphné. La vie était-elle vraiment si douce dans ces bosquets ? Se demandait-il en songeant au refrain qu'il entendait répéter autour de lui. « Mieux vous être un ver et se repaître des mûriers de Daphné que de s'asseoir au festin d'un roi. » En quoi consistait ce charme irrésistible auquel cédaient chaque année des milliers de personnes qui abandonnaient le monde pour se retirer dans ces lieux ? Était-il donc assez puissant pour effacer le souvenir des misères souffertes et faire oublier les choses du passé, douces ou amères ? Et si tant d'âmes trouvaient là le bonheur, ne pourraient-ils pas l'y découvrir également ? À mesure qu'il avançait dans l'épaisseur des bosquets, l'air lui paraissait plus parfumé. « Y a-t-il un jardin là-bas » demanda-t-il à un homme qui marchait à côté de lui, en indiquant de la main la direction d'où venait la bise. « Je crois plutôt qu'on offre un sacrifice à Diane, ou à Pan, ou à quelque autre divinité des bois. » Ben-Hur jeta un regard d'étonnement à cet homme qui venait de lui parler dans sa langue maternelle. « Tu es hébreu, » lui dit-il. « Je suis né à un jet de pierre de la place du marché, à Jérusalem, » répondit-il avec un sourire de déférence. Ben-Hur se préparait à continuer la conversation avec cet inconnu, mais une poussée de la foule les sépara. Un sentier s'ouvrait à cet endroit devant lui. Il s'y engagea, heureux d'échapper au flot de la procession, et il s'enfonça dans un fourré qui semblait de loin être à l'état sauvage, mais où l'on apercevait vite les traces de la main d'un maître. Les buissons et les arbres dont il se composait portaient tous des fleurs ou des fruits. Il reconnaissait le parfum des lilas, des jasmins et des lauriers roses qu'il avait vu fleurir autrefois dans les vallées autour de la cité de David. Il entendait roucouler près de lui des tourterelles. Des merles sautillant sur le sentier semblaient l'attendre et lui souhaiter la bienvenue. Un rossignol chantait sur une branche à portée de sa main et ne s'envola pas à son approche. Une caille passa à côté de lui, à la tête de sa couvée, sans que sa présence parût la troubler. Il s'assit au pied d'un citronnier, dont les racines plongeaient dans un petit ruisseau murmurant sous la ramée. Un pinson, dont le nid frêle se balançait à une branche inclinée au-dessus de l'eau, fixait sur lui, sans témoigner de frayeur, ses yeux noirs et brillants. « Vraiment, se dit-il, il semble que cet oiseau me parle. Il me dit « Je n'ai pas peur de toi, car ici l'amour règne en maître. » Il comprenait tout à coup ce qui faisait le charme de Daphné. Pourquoi s'y soustrairait-il ? Pourquoi ne jouirait-il pas des délices que ce séjour enchanteur lui promettait et n'essaierait-il pas d'y trouver l'oubli du passé et de ses soucis, l'oubli de lui-même ? Mais bientôt, la voix de sa conscience juive se fit entendre. L'amour ? Était-ce donc tout dans la vie ? Tout ? Ce qui pouvait s'y livrer complètement et ensevelir leur existence dans un endroit comme celui-là n'avait sûrement rien qui les retint ailleurs, pas de devoir, tandis que lui, il se leva brusquement le visage en feu. « Dieu d'Israël, mère, Tirza ! » s'écria-t-il. « Maudit soit le jour, maudit soit l'endroit où j'ai pu songer à être heureux sans vous. » Il se précipita en avant, cherchant une issue pour sortir du bosquet. Le sentier aboutissait à un pont jeté sur une rivière. Il le traversa et se trouva dans une vallée verdoyante où paissaient quelques brebis. La bergère l'appela en lui faisant un signe de la main. Il continua son chemin sans lui répondre et ne tarda pas à arriver devant un autel formé d'un piédestal en granit et d'une console en marbre blanc qui supportait un trépied de bronze dans lequel quelque chose brûlait. Une femme tenant à la main une branche de saule était debout devant l'autel. Quand elle l'aperçut, elle lui cria « Reste ici, près de moi !» Mais il s'arracha à la séduction de son sourire et reprit sa course dans la direction d'une forêt de cyprès qu'il apercevait à l'horizon. Tout à coup, Ben-Hur entendit retentir le son éclatant d'une trompette. Au même instant, il reconnaissait étendu dans l'herbe le Judéen qu'il avait rencontré près du temple. Cet homme se leva aussitôt et vint à sa rencontre en le saluant amicalement. « Te diriges-tu du même côté que moi ?» lui demanda Ben-Hur. « Je me rends au champ de course. »« Au champ de course ?»« Oui, la trompette que tu viens d'entendre sonne l'appel des concurrents. » « Mon ami, dit Ben-Hur, je te confesse mon ignorance de ces lieux, et si tu veux me permettre de te suivre, je t'en serai reconnaissant. J'en serai enchanté. Écoute, j'entends le bruit des chariots qui se rendent sur la piste. » Ben-Hur écouta un instant, puis il posa la main sur le bras de son compagnon en disant « Je suis le fils d'Arius le Dûmvir. Je suis Malouk, un marchand d'Antioche. Eh bien, bon, Malouk, le son de cette trompette m'enivre, car j'ai l'habitude de ce genre d'exercice et ne suis point un inconnu dans les hippodromes de Rome. Hâtons-nous de nous rendre à celui-ci. » Le Dûmvir était romain, dit Malouk en ralentissant un peu le pas. Cependant, son fils porte les vêtements d'un juif. Le noble Arius était mon père adoptif, répondit Ben-Hur. Ah, je comprends, je te demande pardon de ma curiosité. Au sortir de la forêt, ils débouchèrent sur un vaste terrain plat, tout autour duquel courait une piste soigneusement arrosée. Des cordes soutenues par des javelots plantés en terre marquaient ses contours. Ombragées par des tentes, de grandes estrades garnies de bancs étaient réservées aux spectateurs. Les deux nouveaux venus s'installèrent dans l'une d'elles. Ben-Hur comptait les chariots à mesure qu'il les voyait s'avancer vers la piste. Ils étaient au nombre de 9. « Je croyais qu'un Orient se contentait de faire courir 2 chevaux, dit-il d'un ton de bonne humeur. Mais je vois qu'ici, les amateurs sont ambitieux et qu'ils en attellent 4 de front, comme les rois. Je suis curieux de voir comment ils se tireront d'affaire. » 8 des quadriges atteignirent sans encombre le poteau d'où s'effectuait le départ. Les uns arrivaient au pas, au trot, tous étaient exceptionnellement bien conduits. Le dernier arrivait au galop. En l'apercevant, Ben-Hur poussa un cri d'admiration. « J'ai vu les écuries de l'empereur, Malouk, mais par la mémoire bénie de notre père Abraham, je n'ai jamais vu les pareils de ces 4 chevaux. » Leur allure se précipitait. Il était aisé de comprendre que leur conducteur n'en était plus maître. Un cri perçant retentit sur l'estrade. Ben-Hur tourna la tête et vit un vieillard debout sur un banc, les mains levées, les yeux dilatés, sa longue barbe échevelée. Quelques-uns de ses voisins se mirent à rire. « Il devrait respecter au moins ses cheveux blancs, » dit Ben-Hur. « Le connais-tu ? C'est un puissant personnage qui vient du désert, d'au-delà de Moab. Il possède des troupeaux de chameaux et des chevaux qui descendent, dit-on, de ceux des premiers pharaons. On l'appelle le Cheikh Hilderim. » Pendant ce temps, le conducteur des 4 chevaux essayait en vain de les calmer. Chacun de ses efforts manquait, excitait davantage le cheikh. « Qu'abandon l'emporte !» hurlait le patriarche. « Courez ! Volez ! M'entendez-vous, mes enfants ?» Ceci s'adressait à quelques personnes de sa suite. « Il s'en est au désert, comme vous ! Arrêtez-les vite !»« Maudit Romain !» continuait le vieillard, en menaçant du poing le conducteur. « Ne m'a-t-il pas juré qu'il saurait les conduire ? Juré par toute la lignée de ces dieux bâtards ! Rends-leur la main ! Rends-leur la main, te dis-je ! Ne m'a-t-il pas juré que sous ses soins, il serait doux comme des agneaux et rapide comme des colombes, qu'il soit maudit et que maudite soit la mère des monteurs qui le nomme son fils? Les voyez-vous, mes coursiers sans prix, qu'il les touche du bout de son fouet? Et alors, le reste de sa phrase se perdit dans un grincement de dents. Jetez-vous à leur tête, dites-leur un mot dans la langue que l'on parle sous les tentes. Fou, fou que j'ai été de les confier à un Romain. Ben-Hur sympathisait avec le cheikh, car il comprenait que sa fureur ne provenait pas tant de son orgueil de propriétaire ou de son anxiété au sujet de l'issue de la course que de son affection pour ses chevaux. Il se disait qu'il méritait d'être aimé ainsi, avec une tendresse touchant à la passion. Ils étaient tous de la même nuance, baie claire, parfaitement assortie et si bien proportionnée qu'ils paraissaient être moins grands qu'ils ne l'étaient en réalité. Leur petite tête, large entre les 2 yeux, était terminée par 2 fins naseaux, dont l'intérieur était d'un rouge vif comme la flamme. Sur leurs encolures, gracieusement arquées, retombaient des crinières si épaisses et si longues qu'elles recouvraient leurs épaules et leur poitrail. Leurs sabots ressemblaient à des coupes d'agate, et tout en ruant, ils battaient l'air de leurs longues queues flottantes d'un noir brillant. Le chèque parlait d'eux comme d'animaux sans prix, et certes, en cela, ils n'exagéraient point. Ben-Hur ne se trompait pas en supposant qu'ils avaient grandi sous les yeux de leur maître, qu'ils avaient été l'objet de ses soins durant le jour et de ses rêves pendant la nuit, qu'ils avaient fait partie de sa famille sous les tentes noires, au fond du désert sans ombre, et qu'il les aimait comme ses enfants. Le vieillard les avait amenés à la ville afin de triompher par leurs moyens de ces Romains hautains et détestés, sans douter un instant du succès. Ils savaient que personne ne pouvait leur disputer le prix de la course s'ils étaient conduits par un entraîneur habile et intelligent, et maintenant qu'ils constataient l'incapacité de l'homme auquel ils les avaient confiés, ils sentaient le besoin, avec toute l'ardeur de son tempérament d'arabe, d'exprimer hautement son indignation et de remplir l'air de ses clameurs. Avant même que le patriarche eût fini d'invectiver son cocher, une douzaine de mains s'étaient emparées des chevaux et avaient réussi à les calmer. Mais un nouveau char venait de faire son apparition sur la piste. Contrairement aux premiers venus, conducteurs, chevaux et chariots étaient en tenue d'apparat. On se fût cru aller voir au cirque et au jour où devait avoir lieu la course proprement dite. Les autres concurrents avaient été reçus sans aucune démonstration, mais les applaudissements éclatèrent sur son passage et l'attention générale se concentra sur lui. Les chevaux attelés au brancard étaient d'un noir de jais, les deux autres blancs comme la neige. Leurs queues étaient coupées courtes selon la coutume romaine et leurs crinières tressées avec des rubans jaunes et rouges. Bientôt, l'étranger se trouva en face des estrades et Ben-Hur, après avoir payé un juste tribut d'admiration à son attelage ainsi qu'à son char, vraie merveille de légèreté et d'élégance, leva les yeux sur lui. Qui était-ce donc ? Ben-Hur ne pouvait voir son visage, mais il y avait dans son maintien, dans ses manières, dans toute sa personne, quelque chose de familier qui lui rappelait une période déjà lointaine de sa vie. Les applaudissements de la foule et la splendeur de son attirail indiquaient clairement qu'il devait être quelque favori du gouverneur ou quelque personnage fameux, ce que ne démentait point sa présence sur le champ des courses, car les rois eux-mêmes briguaient souvent l'honneur de gagner en personne la couronne de feuillage prix de la victoire. Ben-Hur se leva et se fraya un passage. Enfin, il voyait de face l'homme qui excitait sa curiosité. Il était beau de visage et de fière tournure. Vêtu d'une tunique écarlate, il tenait les rênes d'une main et un fouet de l'autre. Il recevait les ovations de la foule avec la froide indifférence d'une statue. Ben-Hur, immobile et comme pétrifié, son instinct et sa mémoire l'avaient fidèlement servi. C'était Messala. Ses chevaux de choix, son char magnifique, son attitude et surtout l'expression orgueilleuse et dure de son visage d'aigle prouvaient qu'il n'avait pas changé, qu'il était toujours le Messala hautain et sûr de lui-même, l'ambitieux cynique, le persifleur dont Ben-Hur avait gardé le souvenir.